Vivre ensemble, l'émission 100% citoyenne du lycée Europe.
Au programme, Aline, Elodie et Coralie nous parlent de lutte contre les discriminations.
Vivre ensemble sur Europe Live. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons sur Europe Live une émission spéciale dans laquelle on va parler du vivre ensemble. Avec Elodie et Aline, nous allons vous parler du racisme, du handicap, de laïcité et plus largement de lutte contre les discriminations. Je leur laisse le micro avec leur première invitée.
Merci Coralie. Nous avons le plaisir de recevoir dans le studio Madame Bettissam Belagma, conseillère principale d'éducation au lycée Europe.
Bonjour à vous les filles et merci pour votre invitation.
Alors première question, pour reprendre le titre de cette émission, c'est quoi votre définition du vivre ensemble ?
Alors pour ma part, le vivre ensemble, tout d'abord il est notamment ciblé sur vous les élèves au sein d'un établissement scolaire. Alors on fait en sorte que, quelles que soient vos origines sociales, ethniques, religieuses, que cela n'est pas à transparaître au sein de l'établissement scolaire. On ne vous demande pas de les effacer quand vous arrivez à la grille du lycée, parce que ça fait partie de votre personnalité. On vous demande juste de ne pas les utiliser pour faire du mal ou pour créer une communauté au sein de l'établissement scolaire. Vous faites déjà partie, en tant qu'élève, de la communauté éducative. Et le vivre ensemble ne va transparaître que par le fait que chaque élève, même avec ses différences, va accepter l'autre et sera accepté par l'autre également. Donc, il est important dans le sens où on est tous différents, mais quand on arrive au lycée, on est tous pareils. C'est ça pour moi le vivre ensemble au sein d'un établissement scolaire.
Le vivre ensemble, c'est un sujet de société. Comment l'école s'empare-t-elle de cette question ?
Alors oui, le vivre ensemble, c'est un sujet de société, dans le sens où ce qu'on essaye de créer à l'intérieur d'un établissement scolaire va forcément préexister et exister déjà au sein de notre société. Nous, on essaye juste de reproduire ce même type de schéma au sein de notre lycée. Donc c'est un phénomène de société, c'est pour permettre à chacun de trouver sa place au sein du lycée, comme on essaie de trouver notre place au sein de notre société, quelles que soient nos différences. Donc on est tous ensemble, on vit tous ensemble et on fait tous en sorte de se respecter, quel que soit l'horizon à laquelle on appartient, quelle que soit notre façon de penser. On est là pour un but commun, c'est être ensemble et faire en sorte que cela fonctionne bien. Donc on fait en sorte de le faire exister au sein de l'établissement scolaire, mais en vrai ça va au-delà des murs du lycée. Ça fonctionne pour notre société de tous les jours. Oui, on est différents, mais on doit tous vivre ensemble. C'est vraiment, à proprement parler, vraiment, j'ai un voisin, il est différent de moi, ça n'enlève en rien, que je vais pouvoir m'enrichir de ce qu'il a en plus, et je vais pouvoir l'enrichir avec ce que j'ai moi en plus.
Alors, le vivre ensemble dans le système éducatif, c'est accepter tous les élèves dans les établissements scolaires. Coralie s'est intéressée à l'accueil des enfants handicapés à l'école.
Oui, Elodie, il faut préciser pour commencer que tous les enfants, quel que soit leur handicap, ont le droit à l'éducation. C'est le principe que se fonde la politique de scolarisation des élèves handicapés. En 2014-2015, ce sont près de 260 000 enfants handicapés qui étaient scolarisés en France. Si un enfant présente un handicap, la première étape du processus de scolarisation est de l'inscrire, comme tous les enfants, dans son école, son collège ou son lycée de secteur, qui devient son établissement de référence. Dans un second temps, si ses besoins doivent être analysés, la maison départementale des personnes handicapées réalise alors un diagnostic du handicap qui permettra de proposer la solution la mieux adaptée à l'enfant. Le projet personnalisé de scolarisation de l'enfant et à leur mise en place. Il précise si la scolarisation doit être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou en établissement médico-social. Si elle nécessite des aménagements ou des matériels pédagogiques particuliers, ou encore à l'accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire.
Merci Coralie. On retrouve Madame Belagma pour parler de lutte contre les discriminations. On le sait, certains élèves sont différents ou plus fragiles que les autres. Ils peuvent être victimes de discrimination. Existe-t-il des cas au lycée ? Quelles solutions apportez-vous pour mettre fin à cette situation ?
Alors, moi je fais très attention avec les élèves parce que les élèves viennent avec des a priori. Pas forcément pour être méchant, vous avez des idées préconçues sur des choses parce que vous ne les avez pas comprises, pas encore assimilées. Donc quand un élève fait subir de la discrimination à un camarade, parfois c'est juste parce qu'il y a eu un mot de travers et tout, et il se dit en lui disant ça, je sais que je vais lui faire mal. Après, il s'agit de faire comprendre à tous les élèves que faire du mal à quelqu'un, ça peut lui arriver à lui aussi. Parce que lui aussi, il a sûrement une particularité qui va déplaire un jour à quelqu'un et que de lui faire savoir dans des termes désobligeants, c'est pas normal. Alors, on vous demande pas, moi c'est ce que je vous rappelle tout le temps, je vous demande pas tous d'être amis, comme je dis toujours, mais je vous demande tous d'être camarades. Vous faites partie d'une entité, cette entité-là, elle existe parce que vous êtes au cœur, l'élève il est au cœur d'un établissement scolaire. Si demain vous n'êtes pas là, l'établissement il a plus lieu d'être. On ferme boutique. Donc, on vous demande juste de vous rendre compte que, oui, j'ai pas forcément à côté de moi mon meilleur ami, mais au moins, j'ai une personne, et pour cela, je dois la respecter. Et si elle a fait un choix différent, si elle a fait le choix d'être homosexuelle, ça ne change rien. Ça reste quand même un camarade. Si elle a une confession qui diffère de la nôtre, ça ne change rien. Elle peut peut-être m'expliquer, me faire comprendre certaines choses que je ne connais pas. Ça ne change rien. C'est vous vous respectez et vous vous devez le respect en tant que personne, avant tout. Et quand l'élève a compris ça, généralement, dans l'établissement scolaire, ça se passe bien. Je ne vais pas dresser un tableau tout rose du lycée des métiers Europe, mais on n'a pas trop de cas à gérer quant à ce sujet.
Au sujet de lutte contre les discriminations, les élèves de 2SPVL ont mené leurs professeurs, Mme Paulette, M. Boumaza et Mme Lotte, un projet sur cette question. On reçoit Judicaël, Camélia et Chloé pour nous en parler. Bonjour à tous les trois. Pour commencer, Judicaël, peux-tu nous présenter ce sujet, ce projet ?
Alors avec ma classe, on a monté un projet, c'était de tourner des vidéos à la discrimination. On avait trois thèmes, la sexualité, donc l'orientation sexuelle. Il y en avait le style vestimentaire et le handicap, qu'il soit physique ou mental. On trouvait que les vidéos, ça parlait plus aux gens, que ça pouvait rester sur Internet. C'était un ami à moi, justement, qu'on a demandé qui était professionnel dans la vidéo. Je lui ai demandé pour nous filmer et il a accepté. Il est venu avec sa caméra, son micro et voilà.
Camélia, comment vous êtes-vous organisée pour préparer ce projet ? J'imagine qu'il a fallu commencer par écrire les scénarios.
On s'est départagé en groupes. Donc il y avait trois groupes, donc la sexualité, l'handicap et les tenues vestimentaires. On était 4 à 5 par groupe. On s'est départagé les tâches. Donc qui devait comment s'habiller. Enfin, notre opinion, on les a tous mélangés pour le scénario. Donc au début, on avait fait un scénario basique parce qu'on pensait pas que ça allait se produire comme ça. Mais au final, on a tout rechangé parce que quand on le joue, c'est pas du tout pareil que quand on l'écrit. Donc du coup, on a tout rechangé et c'est mieux. Ça a donné un bon résultat.
Judicaël, à qui sont destinées ces vidéos et quel est le message que vous voulez faire passer ?
De base, les vidéos s'adressaient plutôt aux jeunes, mais maintenant, on s'est rendu compte que ça pouvait passer pour tout le monde. Mais le message qu'on voulait leur faire passer, c'était que la discrimination, c'était pas bien, qu'il fallait arrêter, que ça faisait du mal aux gens et qu'il faudrait trouver un moyen d'arrêter la discrimination.
Camélia, non seulement vous avez produit des vidéos, mais en plus, vous animez cet après-midi des séances de sensibilisation sur les discriminations.
Oui, il y a des classes de 3e de différents collèges qui vont venir au lycée. On a départagé un peu les rôles de chacun. Donc on va tous présenter notre groupe, notre vidéo et faire des débats là-dessus. Il y aura un échange avec notre public en fait. Donc comment ça sera ? Comment on a fait notre vidéo et si eux, ils ont déjà ressenti cette discrimination.
Est-ce que vous pouvez nous présenter une de ces vidéos, Chloé, peut-être, qui a travaillé sur le thème du handicap ?
Enfin, ça raconte une rencontre, enfin deux rencontres, donc entre des handicapés et des personnes, on va dire, normales. Donc il y en a une où elle est en fauteuil roulant depuis la naissance et l'autre, elle est aveugle. Et la rencontre, au début, on parle... Et puis on fixe le rendez-vous, etc., on va dire. Puis après, il y a le moment où on rencontre la personne et il y en a Il y en a une où ça se passe bien, on va dire. Et bah, il y a tout ce qui se passe normalement. Et puis par contre, l'autre, elle se fait rejeter juste parce qu'elle est handicapée.
Pour finir, Judika, est-ce qu'un projet comme celui-là peut être utile dans le cadre de ta formation et de ton futur métier?
D'un côté, ça peut nous être utile parce qu'on ne juge pas une personne par rapport à son physique. Donc ouais, si on est dans le social et dans les maisons de quartier ou quoi, si on voit une personne qui a un fauteuil roulant, bah on va pas la laisser de côté s'il y en a une autre qui est normale, bien habillée ou autre chose. En gros, on ne délaisse pas une personne parce qu'elle a un handicap ou elle est mal habillée ou mal coiffée ou bizarrement quoi.
Même par rapport à son orientation sexuelle aussi.
Ouais.
Parce que nous, dans notre filière, on va être amené à travailler avec des jeunes, donc dans les maisons de quartier, comme elle a dit, et... Il y aura de tout, des personnes handicapées, des gens qui s'habillent comme ils veulent et il ne faudra pas qu'ils soient mis à part par rapport à leurs différences.
Merci à tous les trois pour ce très beau projet. Madame Bellagma, vous en pensez quoi ?
Je l'accueille de manière très favorable. En plus, ça s'inscrit dans les projets qui sont lancés dans les mesures éducatives nationales et académiques également. Donc, c'est un projet qui a été mené vraiment à bout de bras par Madame Paulette et sa classe de 2SPVL. Et ils l'ont vraiment mené de manière très positive.
On parle beaucoup aussi de harcèlement à l'école. Est-ce facile de repérer un élève qui est harcelé ? Comment se passe un signalement ?
Alors, je trouve que nous, en tant qu'adultes, on n'est pas si bien formés que cela concernant la lutte contre le harcèlement. C'est pour ça que dans mon groupe Vie de l'élève que je pilote depuis cette année, j'ai pris le parti de faire en sorte de mettre une action en faveur des adultes pour savoir comment on peut déceler un élève harceleur, comment on peut constater qu'un élève est harcelé, parce que parfois on peut avoir en face de soi un élève harcelé, mais il n'est pas forcément harcelé par un camarade de classe, c'est peut-être beaucoup plus général, et là ça va au-delà de la classe, c'est sur le lycée. Donc constatant cela, on a pris le parti avec le reste de l'équipe, parce que mon groupe Vie de l'élève, même si je le pilote, il est constitué d'un groupe d'adultes qui se constitue de professeurs de l'établissement et qui nous a permis d'en déduire que nous aussi, en tant qu'adultes, on n'était pas si bien armés que ça pour pouvoir juger et pour pouvoir constater un tel fait. Donc, de ce fait, j'ai mis en place une action qui aura lieu à la rentrée, le jeudi 21 avril, avec Madame Grandclerc, qui est une intervenante et qui va nous permettre de comprendre les ficelles sur la lutte contre le harcèlement et comment comprendre qu'un élève en arrive à devenir harceleur, comment l'harcelé vit cela et quels sont pour nous les moyens et les solutions pour pouvoir s'en rendre compte dès le début et pas attendre que l'élève en soit déjà à 4 mois de brimade et que là, on en arrive juste à devoir poser une sanction. Et pour ma part, hein, j'estime que là, notre rôle éducatif, il est un peu faussé parce que oui, on va poser une sanction, on va le mener au conseil de discipline, mais est-ce qu'on aura vraiment aidé l'harceleur à prendre conscience de ce qu'il a fait de mal à un de ses camarades, et est-ce qu'on aura aidé l'harcelé à pouvoir se reconstruire, parce que derrière, il y a quand même un mal-être qui s'installe, un renfermement de la part de l'élève, et ça, ça touche quand même à la psychologie, et on n'est pas très bien armés, je trouve, nous, en tant qu'adultes, en tant qu'éducateurs, et moi, d'autant plus en tant que conseillère principale d'éducation, pour pouvoir gérer au mieux ce type de situation, malheureusement.
On imagine qu'avec Internet et réseaux sociaux, les choses ne sont pas simples. À votre avis, les élèves ont-ils conscience de ce qu'ils font en postant certaines publications ?
Alors, les élèves, vous n'avez pas conscience de ce que vous publiez, puisque vous vous mettez déjà tout le temps en avant. Moi, pour ma part, je trouve que c'est quand même un peu dangereux. Vous vous prenez en photo, vous les publiez sur des réseaux. Ces réseaux-là font partie d'un groupe qui nous dépasse, nous, au niveau du droit français, qui est un droit beaucoup plus large, parce que souvent, ce sont des réseaux qui ont été créés dans d'autres pays, en l'occurrence les États-Unis, et qui sont régis par d'autres règles. Dès lors où un élève pose une photo, même s'il s'est fait lui-même son selfie, comme vous dites si bien, une fois qu'il a publié la photo, la photo ne lui appartient plus. Alors, je ne vous parle même pas des cas où un élève a pris en photo un de ses camarades, où il s'amuse à le publier sur Facebook ou Instagram pour pouvoir, généralement c'est une photo qui est désobligeante, hein, qu'il ne met pas en valeur, avec des commentaires, et où tous les amis se mettent alors à faire des commentaires désobligeants, oh le bolos, oh le bouffon, et tout ce qui s'ensuit. Donc non, l'élève il n'a pas conscience de cela, parce que sinon lui-même il ne se mettrait pas comme ça en avant sur les réseaux sociaux, il se protégerait s'il avait vraiment conscience du mal que ça pourrait lui faire. Donc je pense qu'il n'a pas non plus conscience quand il publie une photo aux élèves. Mais c'est pour ça que pour moi, il est important que les élèves participent au fait que ce qui se passe dans le lycée et ce qui se décide dans le lycée, ce n'est pas fait contre eux, mais c'est fait pour eux, pour vous protéger. Et c'est pour cela que suite aux dernières publications qui ont été faites et qui ont mené notre établissement à devoir instruire des conseils de discipline par Madame la proviseure, on a décidé de monter un groupe avec le conseil de la vie lycéenne, le CVL, dont je suis la référente, et on est en train de réécrire l'article concernant l'usage du numérique, du téléphone portable au sein de notre établissement scolaire, pour faire prendre tous les élèves de seconde et les élus du CVL que vous avez élus tous en début d'année, se réunissent et retravaillent sur la réécriture de l'article du règlement intérieur concernant l'usage du téléphone portable. Ce travail de réécriture, même s'il est initié par les adultes, mais fait par les élèves, leur fait prendre conscience que ce qu'on fait, c'est pour eux. Ce qu'on fait, c'est pour les protéger. Et je pense que tant qu'on ne participe pas à la conception de quelque chose, c'est vrai que ça reste abstrait. C'est comme nous, les lois de tous les jours, on n'en prend pas vraiment conscience parce qu'elles nous tombent dessus et on se dit oui, je dois les appliquer parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors que non, ça va au-delà de cela. C'est pour ça que je trouve qu'il est important que l'élève soit vraiment au cœur de l'établissement dans le sens en tant qu'acteur.
En tant que CPE, comment agissez-vous pour mettre fin à une situation de harcèlement ?
Alors malheureusement, pour le peu de cas que nous avons eu à vivre au sein de l'établissement scolaire, lorsqu'on en prend conscience, le mal est déjà fait. Hein. Généralement, l'élève harcelé a déjà subi. On a eu une seule fois le cas, mais c'est une fois de trop. Et c'est pour ça que je trouve que nous, en tant qu'adultes, on n'est pas du tout armés et on n'a pas du tout les ficelles pour pouvoir détecter un élève qui est en alerte et en détresse. Parce que avant d'en parler, l'élève se sent tellement humilié, rabaissé, qu'il est déjà en train d'essayer de travailler sur son mal-être, qu'il pense même pas aller voir un adulte et à lui dire « voilà, ils me font subir ça ». Parce que souvent, en plus, ça commence par une personne, deux personnes, trois personnes. Et des fois, ça se généralise sur l'établissement scolaire, mais ça devient tellement récurrent, c'est tellement quotidien que l'élève, il se dit « ça, j'ai l'habitude, ils me font ça tous les jours ». On l'entend, ça. « J'ai l'habitude, ils me font ça tous les jours ». Donc, je trouve que jusqu'à présent, on ne peut pas vraiment parler de gérer de situation. On en arrive où ? On arrive au stade où il faut poser une sanction. Et là, alors, on fait intervenir le personnel de l'établissement pour pouvoir aider l'élève qui a subi cet harcèlement à retrouver sa place en tant qu'élève et à ne pas croire que ce qu'il subissait était quelque chose de normal. Mais c'est vrai que c'est assez difficile, hein, même pour nous, les adultes. Hein.
Le vivre ensemble, c'est aussi comprendre et mettre en œuvre le principe de laïcité à l'école. Pourquoi est-ce important ? Pourquoi insiste-t-on tant là-dessus depuis un an et demi ?
Alors, le principe de laïcité, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler maintenant, mais c'est un principe fondamental et un principe républicain qui existe depuis très longtemps. L'école laïque, elle date de Jules Ferry. Elle ne date pas de moi, elle ne date pas de vous, elle ne date pas de nos grands-parents, elle date de nos arrière-arrière-grands-parents. Pourquoi il est fondamental le principe de laïcité ? C'est pas qu'on n'accepte pas l'élève avec sa confession, pas du tout. C'est qu'on prend le parti de faire en sorte que chaque élève se démarque et se lie d'amitié avec un autre élève, sans aucune distinction de religion, afin de ne pas créer des communautés au sein de l'établissement scolaire, mais de créer la communauté éducative. Et c'est en ça que c'est important. Le principe de laïcité, il n'empêche pas une personne d'être croyante, d'être pratiquante, pas du tout. Souvent, c'est souvent interprété comme ça par une personne qui est pratiquante et croyante. Le principe de laïcité, il accepte la diversité religieuse sans que cette dernière ne soit imposée par l'État. À la base, c'était ça. C'était la séparation de l'Église et de l'État. Et le principe de laïcité, principe fondamental mis en place au sein des établissements scolaires, permet de dire aux élèves, oui, tu as une particularité, oui, tu as peut-être une religion, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais pour pouvoir vivre ensemble, on va partager quelque chose qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, ce sont les principes républicains, liberté, égalité, fraternité, quelles que soient nos origines, sociales, ethniques, religieuses. Il faut partager quelque chose qu'on a en commun. Et ça n'enlève en rien qu'en tant qu'individu, on a des particularités, mais que dans la collectivité, il faut qu'on ait quelque chose de commun, que l'on partage ensemble. Et ça nous ramène au vivre ensemble. On revient, tout se croise et tout va expliquer le vivre ensemble. On n'essaye pas de diviser, bien au contraire, on essaye de réunir et de rassembler. Et c'est en cela que le principe de laïcité, comme tout autre principe républicain, il est nécessaire et fondamental, et c'est ce qui permet de créer cet équilibre au sein de notre société également. Quand vous sortez à l'extérieur, vous avez des églises, vous avez des mosquées, vous avez des synagogues. Ça n'enlève en rien. Et pourtant, il existe le principe de laïcité. Mais on veut que, quand même, dépasser cette individualité, dépasser notre personne, l'individu, et rentrer dans un collectif. Parce que pour faire fonctionner une société, il faut que ça fonctionne ensemble. Et pour cela, il faut du collectif, il faut une communauté.
Madame Belagma, vous pilotez un groupe du CESC. Pouvez-vous nous dire ce que c'est et pouvez-vous nous présenter quelques actions que vous conduisez ou que vous projetez?
Alors, le groupe CESC Ville d'élèves, qui rentre dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, ce sont des groupes qui se composent avec des thèmes. Le mien, en l'occurrence, c'est Ville d'élèves. C'est un groupe que j'anime, je dis bien entre guillemets, parce que je pars du principe que on est un groupe, on est ensemble, je ne fais rien toute seule, qui se constitue également de professeurs, Madame Gurget, Madame Lemery, Monsieur Boumaza, Madame Noble, Madame Djoubanovski, Madame Gaudry, Madame Dubuc, notre infirmière scolaire, voilà, et moi-même, Madame Faury, Madame la proviseure, fait partie de mon groupe. Vie de l'élève. Ce groupe-là, Vie de l'élève, il est mis en place pour pouvoir mettre des choses en direction des élèves. Mais, comme je vous expliquais au préalable, force est de constater que est-ce que nous, on est armés, est-ce que nous, on est formés dans le sens où on va pouvoir résoudre vos problèmes. Et concernant le sujet dont on parlait précédemment, le harcèlement, moi, j'ai constaté pour ma part qu'il me manquait des billes, que j'étais pas assez formée pour ça. Oui, je constate qu'un élève est harcelé quand il est assis devant mon bureau et qu'il me dit « Madame, voilà ce que je subis tous les jours ». Donc là, je pose le constat, j'ai en face de moi un élève harcelé. Mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être formée pour pouvoir le détecter et le déceler avant ? C'est pour ça qu'au sein de ce groupe est mis en place la lutte contre le harcèlement. Mais avant de pouvoir agir sur les élèves, faudrait-il encore que nous, adultes, nous soyons formés à ce sujet-là. Et c'est en ça que cette année, j'ai pris le parti, parce que c'est un groupe que je compte piloter encore quelques temps, j'ai pris le parti déjà de commencer par les adultes avant de pouvoir mener des actions en direction des élèves. Parce que oui, j'aurais pu créer un atelier, faire venir une intervenante et la diriger vers des classes ciblées et leur expliquer voilà, que l'harcèlement, c'est pas bien. Mais moi-même, déjà, il faut déjà que je comprenne tout ce qui amène à ce qu'un élève devienne un harceleur et qu'est-ce qui amène un harceleur à choisir cet élève-là et à le rendre harcelé. Donc c'est pour ça que ce groupe-là, il est nécessaire et fondamental, mais c'est quelque chose qui se construit sur le temps. Là, c'est la première étape cette année. Et plus on avancera dans le temps, et alors les actions seront dirigées en direction des élèves.
Merci Madame Belakma pour vos éclairages.
Merci à vous et merci pour cette interview très intéressante et enrichissante.
Voilà, Vivre Ensemble se termine. Merci à nouveau à Madame Belagma et aux élèves de seconde SPVL pour leur participation. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires sur cette émission sur Twitter avec le hashtag EuropeLive. Ciao, ciao! Sky.
sky is so much clearer on the other side anyway. Sky is so much clearer on the other side.